Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin avec Sébastien de Courtois pour Chrétien d'Orient, nous sommes en compagnie de François-Xavier Maigre. Bonjour François-Xavier.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous êtes rédacteur en chef au Pèlerin, vous avez travaillé à La Croix précédemment, dans le groupe Bayard aussi, au mensuel Panorama, si je me souviens bien. Nous nous sommes connus d'ailleurs à l'époque où vous étiez à La Croix, vous couvriez la question des chrétiens d'Orient, d'où cette familiarité avec une partie du monde qui nous intéresse à tous les deux. Et vous venez de publier un livre avec le père Ziad Hilal, Homs, l'espérance obstinée. Alors un livre qui vient de sortir chez Bayard, où le père Ziad évoque d'une manière dense, émouvante, par votre plume, ces années de guerre, particulièrement à Homs, et le siège qu'il a connu, que cette ville a traversé en Syrie. Comment vous avez rencontré le père Ziad ?
J'ai connu le père Ziad au tout début de la guerre en Syrie. D'ailleurs, à l'époque, on parlait pas encore de guerre, on parlait de crise syrienne. C'était pas encore tout à fait le conflit sanguinaire et meurtrier que c'est devenu par la suite. Mais effectivement, quand j'étais à La Croix, très vite, on a cherché à savoir comment la population, et en particulier les chrétiens, vivaient les troubles et les violences naissantes en Syrie, et en particulier à Homs, qui fut un des épicentres de cette crise. Et très rapidement, en fait, on a été en contact avec le père Ziad, avec les jésuites de Homs, qui répondaient à nos questions, qui nous donnaient beaucoup d'informations sur la situation des populations civiles, sur la façon dont eux, en tant que religieux, venaient en aide à ces populations. Pour moi, ça a été un contact très précieux. On était très souvent en lien téléphonique, on s'écrivait beaucoup. J'ai eu l'occasion de faire un grand portrait de lui dans La Croix. Et on s'est revus plus tard au Liban, quand je suis allé à la rencontre moi-même des réfugiés à l'automne 2013. J'ai retrouvé Ziad à Beyrouth, c'était très émouvant. Et puis on s'est vus régulièrement lors de ces escales parisiennes. Et d'une relation professionnelle, en fait, et très vite est née une amitié entre nous, faite voilà, de beaucoup d'échanges et en même temps de pudeur, parce que c'est quelqu'un qui a vécu des choses qu'aucun homme ne devrait avoir à vivre. Cette amitié voilà, nous a conduit à réfléchir à ce livre ensemble, parce qu'on s'est dit qu'il y avait effectivement un témoignage très important de l'ordre de l'histoire à consigner avant que les images s'envolent, avant que l'odeur du sang ne s'évapore. Et Ziad avait très envie de témoigner au monde de ce qu'il avait vécu en tant que religieux, de son combat pour la paix et de son soutien indéfectible à la population syrienne.
Alors parlons un petit peu du contexte. Nous sommes à Homs, peut-être de situer géographiquement cette ville en Syrie. Je crois que nous sommes entre la route de Damas et la route d'Alep. C'est le centre, voilà, de cet axe nord-sud.
Un grand carrefour en fait d'échanges depuis toujours. C'est une ville où il y a beaucoup de voilà. Les Syriens ont l'habitude de passer quand ils sont en voyage. Il y a beaucoup d'échanges commerciaux. C'est une ville très ouverte sur l'extérieur. Quand Ziad est nommé à Homs, en fait, au tout début de sa vie de jésuite, enfin, il est passé par l'Égypte avant. Lui-même, il est syrien. Il n'est pas originaire de Homs, mais en fait, pour lui, c'est une super nouvelle d'aller à Homs parce qu'il connaît la réputation de cette ville, de ses habitants. Il sait que ça va être chaleureux, qu'il va être bien accueilli, qu'il y a une vie culturelle intense. Et pour lui, c'est vraiment, au début, il accueille ça comme une très très bonne nouvelle.
Alors je vais vous lire un petit peu. À Homs, les jésuites sont implantés de longue date. Nous y administrions trois lieux de culte. Il est important de préciser qu'à l'image de la Syrie, la cité abrite une mosaïque de communautés chrétiennes, héritage de l'histoire foisonnante et parfois tragique du christianisme au Proche-Orient. Syriaque, grec, melkite, grec orthodoxe, maronite, chaldéen, arménien, et l'église latine à laquelle il appartient. Quelle est la spécificité de ce monde catholique oriental que vous avez rencontré?
Vous venez très bien de l'expliquer, c'est ce foisonnement, cette mosaïque de communautés qui puisent leurs origines dans les tréfonds du christianisme. Ce qui est intéressant avec Ziad, c'est que lui-même, il est le produit de cette histoire. En fait, Ziad, il appartient pas à l'église latine à l'origine, il vient d'une famille grecque melkite, et donc c'est sa culture liturgique, communautaire, vraiment depuis son enfance. Mais en fait, en découvrant la compagnie de Jésus, en devenant jésuite lui-même, il est entré dans l'Église latine et il a, enfin, d'une certaine façon, cette double appartenance aujourd'hui qui fait qu'il est lui-même le produit de cette histoire composite du christianisme proche-oriental. Et c'est, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, il en parle souvent dans le livre parce que parfois, ça lui sert. Quand il a besoin de trouver des soutiens à Rome, ben, en tant que jésuite, c'est plus facile. Et en même temps, quand il faut célébrer des funérailles pour une famille melkite, il connaît la liturgie byzantine orientale. Et voilà, il a cette espèce de côté... c'est un passeur, Ziyad, voilà. C'est ce qui m'a plu chez lui.
Alors, il est né en 1973, donc on peut dire que c'est un jeune prêtre. Je crois qu'il a été ordonné en 2010. Et l'une de ses premières fonctions est en Égypte, en Haute-Égypte. Et ensuite, comme vous le disiez, il est nommé dans cette ville de Homs, lui-même étant originaire du sud de la Syrie. Vous avez évoqué le prêtre, maintenant parlez-nous de l'homme. Quelle impression vous fait-il ? Comment on traverse un siège épouvantable, tragique ? Et ces années de guerre.
Ziyad, c'est quelqu'un d'extrêmement pudique. Moi-même, je suis pas sûr d'avoir totalement percé son mystère. C'est quelqu'un, qui préfère parler des autres que de parler de lui-même, qui préfère parler de sa mission et de ses convictions plus que de ses doutes. Et c'est ce qui m'a frappé chez lui, en fait. C'est un homme d'action, vraiment, un religieux entièrement tourné vers l'action, vers l'engagement, et c'est pas quelqu'un qui se paie de mots. Il est, comment dire, il y a quelque chose de très viscéral chez lui, cette espèce d'urgence qui l'a animé tout au long de la guerre, de se dire il faut, même avant que la guerre soit terminée, il faut réconcilier les Syriens, peu importe si je suis face à un chiite, un sunnite, un alaouite, un chrétien, c'est mon frère et je dois me porter à son aide. Il y a quelque chose comme ça d'une urgence chez lui qui m'a beaucoup ému et que j'ai envie de raconter dans ce livre.
Vous écrivez « J'ai compris que la guerre n'est pas un jeu, la violence restera toujours la violence, elle frappe au hasard. Mes engagements humanitaires et spirituels ne me protègent en rien. » C'est le père Ziyad qui dit ça.
Oui, parce qu'au début de la guerre, en fait, faut bien imaginer, cet homme, il est tout jeune, il vient d'être ordonné prêtre. Sa première vraie affectation, donc à Homs, à peine arrivé, la guerre éclate. Et en fait, il se retrouve face à son destin, quoi. C'est-à-dire, il a même pas eu le temps de faire ses armes, de prendre des habitudes pastorales, qu'il se retrouve à exercer son ministère de prêtre dans une ville assiégée où les gens meurent à tous les coins de rue. Et il n'était pas du tout préparé pour ça. Et en fait, il s'est jeté dans cette histoire à corps perdu, sans jamais prendre de précautions particulières, avec beaucoup de générosité, parfois de la naïveté aussi. C'est ce qu'il raconte au début du livre. Il a dû apprendre, en fait, à vivre dans un contexte dangereux, à exercer sa mission dans une ville où la mort pouvait le rattraper à chaque instant.
Pourquoi, selon vous, il est important d'écrire et de laisser ce genre de témoignage ?
Parce que je pense qu'on est dans une époque où on oublie vite, en fait, les informations se chassent les unes les autres au fil des jours, qu'on a beaucoup parlé de cette guerre au moment où des journalistes occidentaux étaient otages ou trouvaient la mort dans les rues syriennes. Aujourd'hui, la Syrie est un petit peu sortie de nos radars médiatiques. Je trouve ça important de raconter l'histoire vécue par Ziyad, mais qui finalement est une histoire d'acteurs de paix parmi d'autres. Il y a eu plein d'autres Ziyad dans la guerre en Syrie, à d'autres endroits. Et je pense que à lui, à titre personnel, il a eu envie de consigner ce traumatisme, cette histoire, et en même temps les éclats de lumière qu'il a vécu aussi, parce qu'il y a eu de très beaux moments, avant que ça s'éloigne de lui, avant de passer à autre chose, et avant que le monde oublie, en fait. Et je pense qu'on a besoin de témoignages comme celui-ci pour ne pas reproduire ces erreurs. Voilà, pour aller de l'avant, on a besoin de se souvenir des pages les plus sombres de notre actualité récente.
Alors, nous l'avions invité, bien sûr, à participer à cette émission de radio, mais il est en Syrie, voilà. Donc c'est
au Liban.
Il est au Liban, voilà, en ce moment, peut-être, pour prendre un peu de distance avec ce théâtre d'opération, pour prendre un peu de recul.
Oui, et puis se reconstruire, je pense que quand on a... Parce qu'après Homs, il est parti à Alep. Enfin, il a humainement, spirituellement, il a été rudement éprouvé par ce conflit. Et je pense qu'aujourd'hui, il a besoin de reconstituer ses forces pour pouvoir aborder une nouvelle phase de sa vie d'homme, de sa vie de prêtre. Et actuellement, je crois qu'il est en train de faire ce travail un petit peu. Il se repose, il prend du temps pour lui. Quand on lit ce livre, on comprend pourquoi il a besoin de ça aujourd'hui.
Alors, il y a deux personnages importants qui traversent ce livre de témoignages. Donc, le père Ziyad Hilal. Premier, le père Paolo. Paolo Dall'Oglio, que nous connaissons bien, en tout cas pour avoir souvent et régulièrement parlé de lui, qui était jésuite aussi, qui rencontre plusieurs fois. Quelle impression vous a fait ce personnage par les propos du Père Ziad?
Alors moi, Paolo Dall'Oglio, je le connaissais pas, mais j'en ai beaucoup entendu parler, évidemment. Ziad et lui étaient très proches, en fait. Ils appartenaient à la même communauté, parce que Paolo Dall'Oglio, en fait, était rattaché à la communauté des jésuites de Homs, et il desservait le monastère de Marmoussa. Ils avaient fréquemment des relations. Ziad allait très souvent au monastère de Paolo. Ils étaient très proches. Et en même temps, c'est deux tempéraments radicalement différents. Paolo, c'est... Ziad le décrit comme quelqu'un d'extrêmement brillant, charismatique, séducteur, généreux. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a énormément marqué l'Église, les églises chrétiennes en Syrie, et qui, quand la crise a éclaté, a eu des positions, en fait, politiques beaucoup plus affirmées que les autres jésuites, qui étaient très prudents sur leur prise de position. Paolo s'est engagé, alors avec courage, mais aussi sans doute avec une forme d'imprudence. Et il raconte, Ziad, toutes les conversations qu'ils ont eues. Ils n'étaient pas souvent d'accord, en fait, sur la conduite à adopter. Ils ont une relation en même temps très forte, et Ziad, comme tous les jésuites, ont été très affectés quand Paolo a disparu.
Alors, il a disparu en juillet 2013, lorsqu'il a essayé de se rendre, selon sa formule, dans le terrier du mal à Raqqa, peut-être comme le père Ziad le dit, pour négocier la libération d'otages. C'est un témoignage très fort, un portrait, je pense, nouveau, parce que c'est la première fois qu'on a une description du père Paolo de quelqu'un qu'il a vraiment connu. On entend beaucoup de gens qui en parlent sans l'avoir ni même rencontré, et qui est un portrait venu de l'intérieur.
Oui, et puis je trouve que c'est un portrait authentique, parce que on le voit avec ses immenses qualités, et en même temps son impétuosité, le côté électron libre au sein de la communauté jésuite, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que Ziad, il en parle avec beaucoup d'affection, et en même temps, je pense qu'il est très sincère dans le portrait qu'il en fait. Mais la disparition de Paolo, ça a été un vrai traumatisme aussi pour toute sa communauté.
Un autre traumatisme, une personnalité exceptionnelle qui est pour le coup tout au long du livre, c'est le père Franz.
Oui, le père Franz...
qui a été assassiné.
Ouais, le père Franz van der Luck, qui est un jésuite néerlandais, qui a fait l'essentiel de sa vie religieuse en Syrie, qui était vraiment devenu un Syrien de cœur, d'adoption, comme le père Paolo d'ailleurs, et qui pour Ziad, en fait, a été une forme de figure de paternité spirituelle. Quand Ziad est arrivé à Homs, il a été sous la responsabilité du père Franz, qui lui a énormément appris. Et Franz a eu un comportement héroïque pendant le siège de Homs, puisqu'il a fait le choix de rester dans la ville assiégée auprès de la population civile. Il a ouvert le couvent des jésuites à toutes les familles.
Des centaines de familles.
Des centaines de familles, pour la plupart musulmanes, mais aussi des chrétiens. Il a été vraiment un apôtre de réconciliation, de paix. Il a eu des positions extrêmement courageuses et cet engagement indéfectible lui a coûté la vie. Alors les circonstances de sa mort restent encore aujourd'hui assez mystérieuses. Toujours est-il que ça a été là encore un véritable électrochoc dans la vie des homsites, et pas seulement d'ailleurs des chrétiens, mais aussi des musulmans, parce qu'il avait des relations. C'est quelqu'un qui connaissait très très bien l'islam, qui parlait arabe et qui avait noué des relations d'amitié et de confiance avec les autorités musulmanes de la ville de Homs, au point que la grande mosquée de Homs lui avait confié des reliques très précieuses qui remontent aux origines de l'islam, qui sont voilà vraiment des grandes reliques pour les musulmans du monde entier. Et ce sont les jésuites qui les ont cachées dans leur couvent, de peur que la mosquée, que le musée de la mosquée ne soit pillé au cours des combats, pour montrer à quel point le père Franz a été un homme d'engagement, de dialogue, de concorde, et on peut dire pour moi une forme de prophète au cœur de cet enfer.
Il n'a jamais cédé sur sa sincérité, sur son engagement d'accueillir tout le monde, d'être le plus ouvert possible, de ne jamais vouloir quitter ce centre-ville qui était un théâtre d'opérations absolument épouvantable entre toutes ces factions. Je crois que le centre-ville a été... Enfin, il y a une scène crépusculaire que vous décrivez par la bouche du père Ziad. La ville a été complètement détruite. Et cette scène est extraordinaire. Donc le père Franz est assassiné. Le père Ziad revient quelques semaines après dans ce couvent, dans sa chambre. Il cherche, il rassemble les papiers, le journal, quelques textes, et il trouve ces documents anciens, donc liés à l'histoire de l'islam. Et il contacte le responsable de ce musée de la Grande Mosquée. Et là, il lui remet les documents.
Ouais, c'est une scène absolument bouleversante.
Devant témoin, parce qu'il voulait
que... Ben, si vous voulez, moi, c'est ce qui m'a frappé, en fait, en racontant l'histoire du père Ziad. c'est que on a souvent, je trouve, il y a des gens qui ont cherché parfois à instrumentaliser ce conflit pour exacerber des tensions islamo-chrétiennes, pour, en tout cas pour essentialiser l'islam comme une menace et tout. Et en fait, ce que raconte Ziyad, c'est que la grande majorité des musulmans syriens, en fait, ont souffert au même titre que les chrétiens, et parfois davantage, et qu'il y a eu une solidarité dont on a très très peu parlé et qui est absolument bouleversante. Moi, qui m'a profondément marqué. Il y a cette scène, effectivement, que vous venez de décrire, mais le fait aussi que le père Franz avait un accord, en fait, avec l'imam de la mosquée voisine. C'était l'imam qui leur faisait livrer de la farine toutes les semaines pour que Franz et les réfugiés puissent faire du pain. Les réfugiés du couvent allaient puiser de l'eau potable dans le puits de la mosquée voisine parce que le leur était devenu inaccessible. Ça, on en a très peu parlé dans notre couverture médiatique, et il y a eu une vraie entraide spirituelle que je trouve infiniment réconfortante dans cette époque où on a parfois le sentiment que le monde devient de plus en plus corseté, morcelé, dur. Et Ziyad a vraiment voulu raconter ça aussi pour donner notre image de cette coexistence interreligieuse au Proche-Orient.
Alors je rappelle le titre de ce livre, Ziyad Hilal, Homs, l'espérance obstinée, un livre qui vient de sortir aux éditions Bayard, un témoignage important, et vraiment il faut le lire pour se réimprégner de toute cette humanité, cette hospitalité que l'on retrouve d'ailleurs dans les heures qui suivent la fin des combats. C'est fascinant, les gens ouvrent tout de suite leur appartement, partagent le très très peu qu'ils ont à partager. Parlons un petit peu de vous maintenant, François-Xavier Maigre, si vous me permettez. Vous êtes poète, vous venez de sortir un très beau recueil de poésie, qui est le second, je crois, « Trois foulées plus bas », aux éditions Bruno Doucet. Alors je vais céder maintenant la parole à Claire. Bonjour Claire.
Bonjour.
Retour de reportage.
Hier encore, j'écoutais cette fille de Syrie, ne sachant ni lire ni compter, mais apte à contrefaire de ses lèvres menues le fuselage sourd qui éventra sa chambre. J'ai voulu suivre son père. Entre les bâches et les cartons, nous avons erré autour du camp comme deux bêtes. Puis nous nous sommes assis, sans dire un mot, près de l'azur accusateur. Mes enfants, je suis de retour. Quelle heure peut-il être ? J'abandonne besace et poussière sur la pointe des pieds pour ne pas vous réveiller. Et le silence de la nuit parisienne m'est insupportable.
Pour Aya, rencontrée dans la plaine de la Beka, au Liban, en 2013. François-Xavier, dites-nous un peu plus.
En fait, en 2013, j'ai eu la chance de participer à un voyage humanitaire avec une délégation de responsables de l'Œuvre d'Orient, du Secours Islamique de France, du CCFD. Voilà, il y a un certain nombre d'associations françaises qui ont envoyé une délégation dans les zones frontalières de Jordanie et du Liban pour rencontrer les réfugiés syriens et témoigner en fait de ce grand drame humanitaire qui se jouait dans les zones voisines de la Syrie. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, j'ai retrouvé le père Ziyad à Beyrouth, qui était éminemment actif dans l'aide aux réfugiés. Je me souviens avoir visité un petit campement de fortune dans la plaine de la Beka avec notre délégation, et de cette fillette, Aya, que j'ai rencontrée avec son papa, qui m'a raconté son histoire et qui se souvenait très bien du bruit du réacteur de l'avion qui a détruit le village de sa famille. Et j'ai voulu écrire ce texte à la fois, bien sûr, pour rendre hommage aux civils syriens qui ont été meurtris.
La poésie est quelque chose d'important pour vous, pour continuer à travailler ?
Oui, moi, c'est une forme d'écriture qui est indissociable des autres pour moi. Et disons que c'est le lieu un petit peu secret de ma réunification intérieure. Voilà, j'ai ma vie de journaliste, de rédacteur en chef, ma vie d'époux, de père de famille, et d'une certaine façon, la poésie, c'est le ciment de tout ce qui constitue mon existence. C'est une façon de témoigner aussi des choses extraordinaires ou ordinaires qu'on traverse et qui finissent par forger une vie.
Je rappelle le nom de votre recueil, « Trois foulées plus bas » aux éditions Bruno Doucet. Et nous allons avoir la lecture d'un second poème, « Jal El Dib ».
Il y avait à Jal El Dib, dans l'hôpital psychiatrique tenu par les sœurs, une jeune franciscaine dont j'ai oublié le nom. Quand j'ai franchi la porte, elle berçait un enfant qui était né infirme et probablement sourd. Et le petit lui souriait. Je ne comprenais pas le phrasé montagneux de cette langue arabe, mais la clarté de son timbre m'ébrécha doucement. Même la Méditerranée, à la fenêtre, retint ses vagues pour écouter sa voix.
François-Xavier Maigre, est-ce que vous avez retrouvé le nom de cette jeune franciscaine ?
Non, je me souviens pas, mais c'était à la faveur d'un autre reportage au Liban, quelques années avant. J'avais découvert cet hôpital psychiatrique tenu par les franciscaines de la Croix du Liban. Et voilà, ça avait été un moment assez bouleversant, en fait, dans cette espèce de chaudron libanais, de découvrir ce lieu d'humanité et de présence pure de ces femmes qui avaient donné la vie pour s'occuper d'enfants très très lourdement handicapés, dont les familles ne pouvaient pas prendre soin. Et voilà, parfois c'est des petites choses comme ça qui remontent à la surface des années après. La poésie aide à sédimenter les éblouissements et les épreuves du quotidien.
Alors je me permets de citer un article, ce que je fais très rarement, qui est sorti dans le Figaro littéraire, qui recense, qui parle de votre éditeur et qui recense votre livre. Le deuxième recueil paru en mars, donc de François-Xavier Maigre, « Trois foulées plus bas » est tout simplement magnifique. Voilà. Merci beaucoup pour être venu jusqu'à nous. Donc ce double, cette correspondance à deux voix entre le père Ziad, que nous saluons, j'espère qu'il nous entend.
Je lui transmettrai le podcast de l'émission.
Voilà, il est au Liban. Il est dans la Beka, il est à Beyrouth, où est-ce qu'il est?
Je ne sais pas où il est actuellement, j'ai du mal à le suivre parce qu'il voyage énormément et c'est vraiment une personnalité en tout cas très attachante. Si vous avez l'occasion d'entendre les conférences qu'il donne sur son expérience, ça vaut vraiment la peine d'aller l'écouter.
Bon, on fera signe, vous nous ferez signe quand il viendra en France. Voilà, on essaiera de le faire venir pour cette émission et pour nous parler directement de son espérance obstinée. Donc Homs, l'espérance obstinée, un livre qui vient de sortir aux éditions Bayard, et votre recueil de poésie, Trois foulées plus bas, aux éditions Bruno Doucet, François-Xavier Maigre. Je remercie Claire infiniment pour la lecture de ses poèmes. Merci Claire. Je remercie Pierre Monteil au son, Vincent Abouchard pour la réalisation de cette émission. Restez à l'écoute de France Culture. Nous retrouvons maintenant le service protestant. Bon dimanche.